Chers amis, en ce dimanche de l'amitié, premier dimanche de décembre, qui est aussi le deuxième dimanche de l'Avent, vous voyez la bougie allumée, alors que la lumière de Noël s'approche de nous, la lumière du Christ, le Christ qui est venu dans le monde pour nous ouvrir et pour nous faire connaître le chemin du salut, le chemin du pardon. Eh bien, je vous propose de méditer sur ce sujet, se laisser guider par Dieu. Cette question fait l'objet d'un chapitre dans le parcours Alpha, ceux qui l'ont fait s'en souviendront, je pense, un chapitre dans lequel il est rappelé la place première qu'occupe la Bible, l'Écriture, dans la manière dont Dieu nous guide, un chapitre qui souligne aussi le rôle essentiel du Saint-Esprit, qui parle de la sagesse nécessaire, du rôle des autres, des frères et sœurs, etc. Mais ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est simplement trois extraits bibliques, trois vignettes bibliques, trois éclairages bibliques qui mettront en lumière, je l'espère, trois aspects de cette question. Mais avant de rentrer dans le texte biblique, je voudrais vous laisser un tout petit moment pour réfléchir par vous-même à cette question. Pensez à des moments où vous avez eu le sentiment que Dieu vous guidait. Dans des périodes de changement peut-être, dans des périodes de questionnement, dans des moments difficiles ou alors dans des moments de joie, dans l'action parfois ou dans la réflexion d'autrefois. Pensez à ces moments où vous vous êtes dit « le Seigneur me guide » ou alors peut-être « j'aimerais bien que le Seigneur me guide ». Je vous laisse un instant pour y réfléchir chacun pour soi. Seigneur, tu connais l'expérience de chacun. Tu sais le chemin qui est devant nous, celui que nous avons déjà parcouru aussi, et le lieu où nous sommes aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur, que tu nous guides et que tu veux nous guider. Mais il reste des questions et nous te prions pour que ta parole nous éclaire ce matin encore, que ton esprit parle à nos cœurs et que nous comprenions mieux. Comment tu veux agir avec nous, comment tu veux nous parler, comment tu veux nous montrer la voie à suivre. Au nom de Jésus. Amen. Trois vignettes bibliques, donc. Je vous propose trois tranches de vie, en quelque sorte, des personnages d'hier, mais qui pourraient être des personnages d'aujourd'hui, des gens qui pourraient même nous ressembler. Peut-être que vous connaissez ces personnages, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont au moins entendu parler. Observons-les simplement dans un tout petit extrait de leur parcours à un moment où quelqu'un les a guidés. Genèse, chapitre 37, verset 12. Les frères de Joseph allèrent faire paître leurs troupeaux, les troupeaux de leur père, dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va !» « Je veux t'envoyer vers eux. » Joseph répondit, « J'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, « Que cherches-tu ? » ?»« Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ?» « Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, « Allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Joseph s'engage sur le chemin qui va le conduire jusqu'à ses frères. Et quand je dis Joseph, vous avez compris, c'est le fameux Joseph, hein, celui du vêtement multicolore, celui des rêves, le Joseph qui est vendu comme esclave par ses frères, et puis qui va passer de l'esclavage à la prison, et puis de la prison aux plus hautes fonctions du royaume d'Égypte. Ce Joseph qui a fait des rêves, et dont les rêves s'accomplissent. Joseph se lance dans une quête. Il part à la recherche de ses frères. Il est seul, personne ne va faire le voyage à sa place. Et sa quête sera longue parce que de Sichem à Hébron, il y a un bout de chemin à faire, il y a plusieurs jours de route. Mais Joseph se perd, ou en tout cas il ne trouve pas ce qu'il cherche. On l'a envoyé dans une direction, mais il n'y a rien au bout, et donc forcément il tourne en rond. Dans ce contexte, c'est plutôt un mauvais présage, on pourrait dire, parce que si vous connaissez la suite de l'histoire, vous savez ce qui attend Joseph, et vous vous dites peut-être, ben, ça commence bien pour lui. Heureusement, un passant lui vient en aide, et Joseph arrive là où sont ses frères, dans le village de Dothan, et tout rentre dans l'ordre. Il a retrouvé son chemin, il a été guidé. Mais notez bien deux choses. Premièrement, un homme, un anonyme, s'approche de lui et lui montre le chemin. L'incident est tellement banal qu'on pourrait très bien ne pas y faire attention. Un homme approche et lui montre le chemin. Bon, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et alors, c'est pas ça qui est important dans l'histoire de Joseph. C'est tout ce qui va se passer après qui compte. Oui, mais pour qu'il se passe après tout ce qui va se passer après, eh bien, il fallait que Joseph retrouve son chemin. Deuxièmement, grâce à cet homme, Joseph avance sur le chemin, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il attend au bout de la route? La violence de ses frères qui vont le vendre comme esclave à des marchands. L'esclavage donc, et puis la prison. Finalement, qu'est-ce qui a guidé Joseph dans cette histoire? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est le hasard? Comment savoir si le Seigneur était à l'œuvre dans ces circonstances, dans cette rencontre, en pleine campagne, entre Joseph et cet homme inconnu? À la toute fin de l'histoire, Joseph dira quelque chose qui signifie, grosso modo, « Oui, le Seigneur m'a guidé ». Mais entre-temps, donc, il y aura eu l'esclavage et la prison. En tant que chrétiens, nous croyons que le Seigneur nous guide, oui, nous le croyons. Mais il n'est pas toujours facile de voir, dans l'instant de notre marche, la main de Dieu dans les circonstances, dans les rencontres de notre vie. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Est-ce que c'est le bon chemin que l'on m'indique? Est-ce que c'est le Seigneur qui vient à la rencontre de Joseph alors qu'il tourne en rond dans la campagne? Joseph dira plus tard quelque chose qui laisse entendre qu'il a vu l'œuvre du Seigneur dans les circonstances et dans les rencontres de sa vie. Joseph sait, ou il va apprendre en tout cas, que le Seigneur vient à la recherche de ses enfants, qu'il ne nous laisse pas tourner en rond indéfiniment, mais qu'il fait en sorte que notre marche croise son chemin. Il l'a fait bien sûr pour nous en Jésus-Christ. Alors que nous étions errants, pris au piège de nos péchés, il est venu se placer sur notre route. Mais il agit aussi parfois par les circonstances, par des personnes, pour nous guider sans qu'il soit toujours facile ou possible pour nous, dans l'instant, de savoir si c'est vraiment lui qui est à l'œuvre. Deuxième vignette, Jonas, chapitre 1er, à partir du verset 1er. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Deuxième vignette, donc, et encore un peu de géographie, Sichem, Hébron, maintenant Ninive, Tarsis. Nous visitons le Proche-Orient de l'Antiquité, mais bon, la vie est un voyage. Et à l'époque, on voyageait déjà, parfois à pied, ici en bateau. Les hommes et les femmes de la Bible étaient souvent en déplacement. La foi est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui nous fait bouger, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Dieu parle à Jonas et il lui montre une direction, la direction de la ville de Ninive. Oui, Dieu peut nous guider. C'est en tout cas l'expérience des croyants depuis Jonas et même avant lui et jusqu'à aujourd'hui. Et Jonas partit dans l'autre direction. Et quand je dis Jonas, vous l'avez compris, c'est le fameux Jonas du poisson, hein, le prophète bien connu de la Bible. Avons-nous vraiment envie de recevoir une parole de Dieu? Avons-nous vraiment envie de recevoir les instructions de Dieu? La parole de Dieu nous dérange. Et si la parole de Dieu nous dérange, c'est souvent à cause de son effet miroir. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, il y a des jours où on a envie de s'enfuir en courant, ça c'est Jonas. Et puis il y a d'autres jours où on ne peut plus se décoller du miroir, ça c'est l'effet psaume 139. Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Lorsque la Bible nous dérange, eh bien c'est souvent parce qu'elle fait apparaître dans son miroir le reflet de nos tensions intérieures, de notre malaise, de nos échecs, de nos fautes. C'est souvent parce qu'elle nous montre nos limites, notre paresse, notre manque d'amour, notre violence. Lorsque la parole de Dieu nous dérange, c'est souvent parce qu'elle parle de l'humanité, parce qu'elle parle de nous et parce qu'elle nous connaît bien. J'ai remarqué, et je ne sais pas si vous avez fait aussi cette expérience, que c'est la personne qui me connaît le mieux, qui a la capacité de me faire réagir le plus vivement, le plus fortement. Parce que l'image qu'elle me renvoie est exacte. Et dans un sens, la Bible est cette personne qui nous connaît le mieux. L'image qu'elle nous renvoie de nous-mêmes est une image authentique. Ce n'est pas une image superficielle, c'est une image vraie, une image profonde. Et c'est bien le problème de Jonas. Parce qu'à la fin du petit livre qui porte son nom, Jonas s'adresse à Dieu et lui dit ceci, « Je le savais, je le savais ». Et c'est là son problème. Dès que Jonas a entendu la parole de Dieu, il a su. Et c'est pour ça qu'il est parti. Il a su que le Dieu qui lui parlait était un Dieu de compassion, un Dieu de pardon, un Dieu dont le désir ultime était de voir les gens revenir à lui. Tout de suite, Jonas a su que le message qu'il était chargé de porter avait pour but de susciter ce retour à Dieu et que c'était en fin de compte un message de pardon, un message de nouvelle chance. Et en même temps, par effet miroir, Jonas a su en lui-même qu'il n'avait pas envie d'apporter ce message, qu'il n'avait pas envie de pardonner, qu'il n'avait pas envie d'être porteur de salut, qu'il n'avait pas envie que des gens qui n'étaient pas aussi méritants que lui bénéficient comme lui du salut de Dieu. Je le savais. Oui, Dieu peut nous guider. Oui, des croyants de tous les temps, de tous les lieux peuvent en témoigner. Dieu, par sa parole, peut nous guider. Mais l'histoire de Jonas nous interroge. Le voulons-nous vraiment? Voulons-nous recevoir les instructions de Dieu? Et sommes-nous prêts à agir conformément à la parole de Dieu? Troisième et dernière vignette, je passe cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, avec un récit de guérison au chapitre 8, à partir du verset 22. Marc, chapitre 8. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Bethsaïda, en Galilée, au bord du lac, près de l'embouchure du Jourdain, nouvelle et dernière étape de notre voyage. Pour arriver jusque-là, le voyage n'a pas été facile. Les disciples de Jésus ont connu des vents contraires. Ils ont connu aussi des moments de solitude, puisqu'à un moment donné, Jésus les a laissés seuls pour se rendre dans d'autres villes. Mais ils sont à nouveau réunis et voilà qu'on amène à Jésus un homme aveugle. Jésus accomplit des gestes de guérison, mais il faut deux étapes pour que l'homme puisse vraiment voir. Au début, il voit des gens, mais qui sont comme des arbres qui bougent. Ensuite, tout s'éclaircit Et Jésus lui montre le chemin à suivre, la direction à prendre. Il y a des étapes. Il faut plusieurs interventions de Jésus. Parce que nous sommes, nous aussi, parfois aveugles et sourds. Oui, Dieu peut nous guider, mais la parole qu'il nous donne est comme une semence de vie. Elle va grandir en nous, étape après étape, saison après saison, et il faut lui en laisser le temps. Il y a des moments de flou. Tous ceux qui ont cherché la direction de Dieu en ont fait l'expérience. Il y a des moments de flou, et puis il y a des moments de clarté, où les choses se précisent, où le ciel s'éclaircit. Et lorsque les choses se précisent, lorsque ce ne sont plus des arbres qui bougent que l'on voit, mais bien des gens, lorsque les yeux s'ouvrent, alors il y a cette parole de Jésus, « N'entre même pas dans le village. » C'est-à-dire, va directement chez toi. Avance tout droit, sans faire de détour, dans la direction que je te montre. Oui, Dieu peut nous guider. Mais cette petite histoire nous invite à nous caler sur le rythme du Seigneur, pour que la semence de sa parole et le temps de grandir en nous. Cette histoire nous incite à ne pas brûler les étapes, à laisser le Seigneur nous éclairer jusqu'au moment où nous verrons vraiment. Oui, Dieu peut nous guider, mais cette histoire nous interroge. À quelle étape en sommes-nous? Trois récits, mais ce ne sont que trois exemples, et il y en aurait beaucoup d'autres. J'aurais pu parler d'Abraham. Oui, Dieu peut nous guider, mais où nous mène-t-il? On aurait pu parler d'Israël dans le désert. Oui, Dieu peut nous guider, mais il n'empêche qu'il y a des moments où nous tournons en rond par notre faute. On aurait pu parler de l'apôtre Pierre. Oui, Dieu peut nous guider, même si à un moment donné nous sommes revenus en arrière, nous avons la possibilité de repartir sur le chemin du Seigneur. On aurait pu parler de l'apôtre Paul, qui a connu la faim, la soif, le dénouement, les coups, l'errance, les tribunaux. Oui, Dieu peut nous guider. Mais il n'a jamais été dit que le meilleur chemin était le chemin de la facilité. Mais j'ai choisi Joseph. Joseph parce que son histoire nous invite à laisser Dieu s'approcher de nous comme il le veut. Dieu n'est pas loin, nous pouvons en avoir l'assurance et sa main nous guide. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas toujours possible ou pas toujours facile de savoir dans l'instant comment interpréter les circonstances et les rencontres. J'ai choisi ensuite Jonas parce que son histoire interroge nos motivations. Sommes-nous vraiment prêts à laisser Dieu nous guider? Se laisser guider par Dieu, c'est accepter de suivre son chemin et non pas le nôtre. Ou plutôt de faire de son chemin notre chemin, même si nous préférerions suivre une autre voie et faire d'autres détours. Et puis j'ai choisi l'homme aveugle de Bethsaïda, parce que l'histoire de sa guérison nous rappelle qu'il y a des étapes, des moments de flou, des moments d'assurance, des moments d'arrêt et des moments où il faut avancer sans faire de détour. Se laisser guider par Dieu, c'est aussi laisser la semence de vie de sa parole grandir en nous et porter son fruit. Mais au bout du compte, chers amis, nous pouvons croire que Dieu nous guide. Et c'est ça qui est important. Il l'a démontré en Jésus-Christ, qui a fait tout le chemin jusqu'à nous pour nous ouvrir le chemin de la vie et pour y marcher avec nous. Amen.